Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Alors que la France lance un état d'urgence économique et social, l'Espagne aussi s'interroge sur les dégâts qui pèsent sur une génération sacrifiée. Malgré les signes de reprise économique, 55% des 15-24 ans sont toujours sans emploi. Montré du doigt, l'école, avec un taux d'échec redoutable, des redoublements et surtout des adolescents qui arrêtent leurs études à 16 ans sans aucun diplôme. Plusieurs réformes sont à l'étude, mais la crise est passée par là et avec elle une réduction du budget alloué à l'éducation. Reportage dans plusieurs écoles de Madrid, signé Diane Cambon.
Indifférent au vacarme des élèves qui déboulent dans les couloirs à l'heure de la pause, Alfonso Fernandez reste plongé sur les statistiques de son collège. Pour ce jeune directeur d'une trentaine d'années, la lutte contre l'échec scolaire est une priorité, même s'il est conscient que dans son institution de la banlieue madrilène, il y a encore beaucoup à faire.
Aujourd'hui, redoubler, cela semble banal. C'est normal de redoubler 3 ou 5 matières, ce qui t'oblige ainsi à redoubler tout le cursus. Évidemment, cela m'inquiète beaucoup.
Si les redoublements sont fréquents, l'abandon de la scolarité reste la principale préoccupation en Espagne, avec un taux de chômage de 25%, soit le double de celui du reste des pays de l'Union européenne. Dès l'âge de 16 ans, les élèves peuvent choisir de quitter l'école sans même avoir obtenu de diplôme. Ils étaient très nombreux à le faire durant les années champagne de l'Espagne, quand le secteur de la construction représentait le premier moteur économique du pays, comme l'explique le sociologue Juan Ramón.
Durant cette période où l'économie était très forte, beaucoup d'élèves ont été séduits par la vie facile. Beaucoup ont abandonné l'école pour trouver un emploi très bien rémunéré et pour lesquels ils n'avaient pas besoin d'être hautement qualifiés.
Avec la crise économique qui a débuté en 2008, le décrochage scolaire a légèrement diminué. Beaucoup sont retournés sur les bancs de l'école pour reprendre des études ou apprendre un métier. Pour le directeur Alfonso Fernandez, l'enseignement pratique est l'une des clés pour sauver les élèves les plus récalcitrants à l'étude classique.
Des enfants de 13-14 ans vous disent qu'ils ne veulent plus étudier parce que c'est trop dur, ils ne sont pas motivés ou parce qu'ils n'ont plus envie. La seule voie qui s'ouvre à eux alors est celle de la formation professionnelle. Pour ces élèves qui ne vont pas obtenir de diplôme dans le cursus obligatoire, cette option est souvent la meilleure, plus motivante car elles apprennent un métier.
Au collège Machado, situé dans le sud de Madrid, Luis Padilla enseigne la cuisine depuis 25 ans. Ses élèves, une quinzaine par classe, sont ceux qui ont eu le parcours scolaire le plus chaotique, dû souvent aux conditions sociales et économiques compliquées de leur famille. Même s'il est convaincu que la formation professionnelle est la planche de salut de ses élèves, Luis garde cependant des doutes sur les débouchés.
Nous ne savons pas vraiment ce que deviennent ces gamins que nous avons récupérés et qui ont été placés dans des programmes spéciaux d'apprentissage, une fois le cursus terminé. Moi, dans ma spécialité qui est la cuisine, le pourcentage d'élèves qui trouvent leur place dans le monde du travail est assez bon, mais je ne peux pas dire non plus combien réussissent à s'intégrer.
Qu'il soit doté de diplômes universitaires ou professionnels, la vie active ne sourit pas aux jeunes Espagnols. Le chômage chez les 16-24 ans stagne toujours à 55% malgré les signes de reprise économique. Autre donnée inquiétante, près d'un jeune sur quatre entre 15 et 29 ans ne travaille ni n'étudie. Face à ce triste panorama, il est difficile de motiver les jeunes à étudier, assure la psychologue Julia Rodriguez.
Beaucoup sont démotivés, car ils voient bien qu'étudier ne sert pas à grand-chose. Ils constatent que leur frère, qui a été à l'université, est au chômage, ou que leur cousine poursuit ses études dans un master, car elle ne trouve rien d'autre. Bref, ils se demandent pourquoi faire des efforts si après, il n'y a pas de résultat.
Plusieurs réformes sont à l'étude pour améliorer l'éducation. L'une des mesures annoncées est de rendre obligatoire l'école jusqu'à 18 ans afin que tous les élèves en sortent munis d'un diplôme ou d'une formation professionnelle. Autre proposition, cette fois beaucoup plus polémique, est celle d'évaluer les professeurs selon les résultats des élèves. L'échec scolaire serait aussi celui des enseignants.
Livre.
Petit séisme dans le monde de l'édition et dans la société allemande tout court. C'est cette semaine que ressort une nouvelle édition de Mein Kampf, Mon combat en français, l'ouvrage fondateur du nazisme rédigé par Hitler en 1924. Avant 1945, plus de 12 millions d'exemplaires avaient été vendus et il avait été traduit dans 18 langues. Pour en parler, on retrouve à Berlin Déborah Berlioz. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, était-il interdit d'éditer Mein Kampf en Allemagne ?
En fait, les droits du livre étaient détenus par l'État de Bavière depuis 1945 et ce dernier s'est toujours opposé à une réédition de l'ouvrage en Allemagne. Cependant, au 1er janvier, les droits sont tombés dans le domaine public. Mais le livre n'était pas pour autant interdit de ce côté du Rhin. Des exemplaires d'origine étaient toujours en circulation et on pouvait en trouver chez les antiquaires. Certains exemplaires sont également disponibles en bibliothèque, mais le plus souvent, il faut faire une demande spéciale pour pouvoir les consulter. De plus, on peut déjà trouver des exemplaires de Mein Kampf tout autour du globe. Il se vend très bien dans certains pays arabes et a même été traduit en hébreu. Et au Japon, il existe une version manga du livre d'Hitler.
Et la version qui va sortir dans les prochains jours en Allemagne est-elle la même que celle d'origine ?
Alors non, Mein Kampf ne va pas être réédité tel quel. Cette nouvelle version est l'œuvre de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. Une douzaine d'historiens y travaillent déjà depuis 2009. Outre le texte d'Adolf Hitler, ils ont donc ajouté quelques 3500 commentaires. Il s'agit ici de déconstruire et de resituer le propos du Führer dans son contexte. Comment Hitler a-t-il développé ses théories ? Quel était son objectif ? Comment les contemporains ont-ils réagi à sa sortie ? Voici quelques questions auxquelles tente de répondre cette nouvelle édition. Elle comportera environ 2000 pages réparties en deux volumes.
Le livre est donc considéré comme une source historique qui permet de mieux comprendre le national-socialisme. Mais est-ce que tout le monde le voit de cette manière en Allemagne ?
Certainement pas. Cela fait déjà plusieurs années qu'une réédition de Mein Kampf est débattue ici. Le Conseil central des Juifs d'Allemagne s'y est toujours opposé, par exemple. Son ancienne présidente, Charlotte Knobloch, juge l'ouvrage dangereux et refuse toute édition, même commentée. Pour les historiens de l'Institut de Munich, à l'inverse, une interdiction serait contre-productive, car elle renforcerait le statut mythique et culte du livre. Une version commentée permet au contraire de démonter l'argumentaire du texte et de mettre en lumière les mensonges et semi-vérités qu'il comporte. D'ailleurs, l'Association allemande des enseignants s'est déclarée favorable à l'utilisation de cette nouvelle édition de Mein Kampf dans les lycées. Il pourrait être étudié avec des élèves de 16 et 17 ans. Selon le président de l'association, cela peut aider à immuniser les jeunes contre l'extrême droite.
Mais Déborah, y a-t-il un risque de voir ce livre utilisé à des fins de propagande par des groupes néo-nazis ?
Selon les informations du journal Der Spiegel, les services de renseignement allemands ne considèrent pas la réédition de Mein Kampf comme un danger. Et de nombreux experts s'accordent à dire que les thèmes abordés dans le livre ne correspondent pas aux préoccupations des extrémistes d'aujourd'hui. Le concept d'espace vital à l'Est, par exemple, n'est plus vraiment d'actualité.
Et d'autres versions du livre doivent sortir ?
Ce n'est pas encore prévu, mais dans tous les cas, les ministres de la justice des différents Länder allemands ont décidé en 2014 d'interdire toute réédition non commentée de Mein Kampf. Une loi spéciale ne devrait pas être nécessaire pour cela. Celui qui voudrait sortir une version du texte sans aucun commentaire pourrait simplement être accusé d'incitation à la haine raciale. Cependant, il y a actuellement une pièce de théâtre consacrée au livre. Elle a été créée par la troupe Rimini Protocol et sera jouée à Berlin ce mois-ci. Cette troupe spécialisée dans les thèmes politiques n'a pas mis en scène directement l'ouvrage d'Hitler, mais elle montre différents personnages qui racontent leur expérience avec ce texte.
Et en France, une réédition est-elle prévue ?
Alors, les éditions Fayard ont également travaillé sur une version commentée du texte d'Adolf Hitler qui devrait sortir en 2016. Mais on peut déjà trouver Mein Kampf dans l'Hexagone. L'édition française remonte à 1934 et l'Institut GFK estime à environ 2500 le nombre d'exemplaires vendus chaque année en France. Toutefois, depuis 1979, le livre doit être accompagné d'un avertissement de 8 pages pour rappeler l'incompatibilité totale entre les thèmes racistes du livre et les valeurs de la République.
Merci Déborah Berlioz, on vous retrouve très bientôt. C'est presque devenu un sujet de non-débat. Dans les sondages, 68% des Français se déclarent en faveur du mariage pour tous. La loi française, votée le 23 avril 2013, permet désormais aussi l'adoption pour les couples homosexuels. Est-ce que ce texte a bouleversé les notions de famille et de couple? C'est ce qu'a cherché à comprendre Laurence Théo auprès des principaux intéressés.
Nous sommes devant La Mutinerie, un bar gay situé dans le quartier du Marais à Paris. Grand blond aux allures de dandy, Alexis a épousé son compagnon il y a un an. Le fait qu'il ait pu légalement se marier a tout changé dans sa vie.
Depuis le jour où j'ai réalisé que j'étais homosexuel, j'ai toujours eu l'impression que je devrais vivre mon union de façon peut-être un peu cachée aux yeux de la société. Et aujourd'hui, non seulement je la vis de façon totalement affichée, mais en plus la société la reconnaît, l'accepte comme n'importe quelle autre union.
Et pour Stéphanie, rencontrée un peu plus loin, son mariage avec Alexandra a été une grande joie. Elle montre son alliance.
C'est une fierté, puis ça peut paraître bizarre, mais on nous rabâche tellement qu'on n'est pas normal et tout, et puis bah, quelque part, bah, ça nous rend un peu plus normal à leurs yeux. Moi, le plus beau truc que j'ai entendu, c'est la maire du 12e arrondissement qui nous a dit « Mais le fait que le mariage homo soit arrivé, ça va juste faire qu'on parlera d'amour. »
Le mariage pour tous a permis en effet à un couple de femmes ou à un couple d'hommes de s'aimer librement et de penser à la notion de famille autrement, puisqu'il autorise l'adoption. Alors c'est quoi une famille? Les détracteurs du mariage pour tous plaident pour l'intérêt de l'enfant. Selon eux, un enfant élevé par un couple de même sexe est contre nature. Réaction vive de Jean-Christophe Quinton et de Florent Schwartz, ils sont mariés.
Vouloir faire une morale et construire une société sur la nature, mais c'est ridicule, ça ne veut strictement rien dire. Et depuis Rousseau et 1789 et le contrat social de Rousseau, on sait bien que la société est là pour contrebalancer toutes les injustices ou les inégalités plutôt de la nature. Donc c'est un argument naturaliste ne peut pas absolument pas tenir. On n'est pas en train de faire de la biologie. On sait très bien que deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas ça. On ne parle pas de faire un enfant, on parle d'élever un enfant et d'en faire un citoyen. Est-ce que ça c'est possible?
Il y a des familles homoparentales qui aujourd'hui sont protégées, beaucoup plus protégées, où les enfants au sein de ces familles sont protégés. Donc c'est extrêmement concret, extrêmement important, et aujourd'hui ça se déploie et ça défend donc les conditions dans lesquelles ces enfants s'épanouissent.
Et si on donnait la parole aux enfants justement? Julietta, 18 ans, et ses deux sœurs ont deux mamans, Carla et Marie-Laure. Pour la jeune fille brune au sourire sage, l'adoption de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe apporte certes une protection pour les enfants, mais sur le plan psychologique, le fait d'avoir deux mères n'a jamais posé de problème.
Carla et Marie, elles ont toujours expliqué que c'était pas forcément pareil dans les autres familles et que on n'était pas une famille anormale. Et je sais pas, il n'y a pas eu de non-dit. Bah, les gens, la plupart du temps, ils sont quand même curieux de savoir... comment ça s'est passé, pourquoi on n'a pas de père, comment on est né alors. Mais moi, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes. Ça a toujours été plus de la curiosité qu'autre chose.
Est-ce que le fait de ne pas avoir de père, c'est quelque chose qui vous manque?
Non, parce que on n'a pas besoin d'avoir un père. On a déjà deux mères, alors...
L'envie de savoir qui il est, ça vous est pas passé par la tête?
Non. Quand on était petite, on s'amusait des fois à dire « Ah, et si c'était lui, notre père ?» C'est comme ça.
En voyant des gens dans la rue?
Oui, ou même des gens connus.
Un peu plus de 2 ans après la légalisation du mariage pour tous en France, les couples homosexuels parlent d'un avant et d'un après et se réjouissent de cette avancée. Mais déplorent dans ce même élan la libération d'une parole homophobe. On retrouve Florent Schwartz.
Malheureusement, les débats qu'il y a eu pour le mariage pour tous ont entraîné la manif pour tous et des choses particulièrement sinistres pour moi, à l'égard des homosexuels, des couples homosexuels et des familles homoparentales. Et ça a libéré une parole qui était un peu tenue sous le joug des conventions sociales et qui a complètement explosé dans cette année-là, en 2013. Et ça, c'est assez terrible. D'un autre côté, peut-être, c'est une bonne chose de le savoir, que dans la société, il y a des personnes qui sont encore opposées à ça et qui sont prêtes à manifester en grand nombre, à venir de tous les coins de France à Paris pour manifester contre les droits des homosexuels, tout en se défendant d'une quelconque homophobie, ce qui est absolument faux.
En France, 10 000 mariages ont été célébrés en 2014, soit 4% de l'ensemble des mariages civils pour cette même année.
Qui êtes-vous?
Je suis moi.
Lui, c'est moi.
Et je suis vous.
Expliquez-vous, je vous prie.
20 ans après la fin de la guerre dans les Balkans, les élites des années 90 sont toujours en place et le nationalisme et la corruption gangrènent toujours la région. Mais certaines voix viennent pourtant annoncer le changement. Celle d'Igor Stix, chercheur et écrivain, est l'une d'elles. Son portrait est signé Laurent Gélin.
Igor Stix parle plusieurs langues, dont le français. Il a étudié à Paris, aux États-Unis. Il enseigne à Édimbourg, en Écosse. Comme beaucoup de Yougoslaves chassés par les guerres des années 90, il est devenu un peu malgré lui un écrivain girovague, passant d'une capitale à l'autre au gré de ses conférences littéraires ou de ses engagements politiques. Enfant de Sarajevo, il se réfugie à Zagreb en 1992, au début d'un conflit qui allait forger le thème principal de ses recherches universitaires, la question de la citoyenneté dans les pays post-yougoslaves, passé en quelques années du socialisme au nationalisme ethnique. Et comme il aime à le répéter, quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place dans les Balkans, un souffle qui pourrait balayer deux décennies de transition guerrière, des manifestations populaires en Bosnie-Herzégovine ou en Croatie qui demandent plus d'égalité et la fin des régimes corrompus. Je reste plutôt axé sur le champ culturel, explique-t-il comme pour s'excuser de ne pas construire de barricades. Igor Stix s'est néanmoins engagé, il est l'un des fondateurs du Forum subversif de Zagreb, qui réunit des étudiants, des syndicalistes et des animateurs de cercles de réflexion de la région. Dépathologiser les Balkans, tel est l'objectif de ces rencontres, c'est-à-dire rompre avec l'idée que la région constituerait un univers particulier, toujours dominé par les problématiques d'un interminable après-guerre. En réalité, explique-t-il, les questions sociales sont largement les mêmes dans les pays des Balkans que dans ceux d'Europe. Le jeune homme de 37 ans en est convaincu, les peuples du sud-est de l'Europe ont donc beaucoup plus qu'ils ne le pensent à partager.
Une Guinness végétarienne, c'est avec ce breuvage cuvée spéciale 2016 qu'on vous embarque pour la nouvelle année. La célèbre marque a en effet décidé de revoir entièrement son processus de fabrication pour ne heurter aucun palais. Les explications avec notre correspondante à Londres, Marie Billon.
Si on regarde une pinte de Guinness à travers le verre transparent, on peut voir des petits résidus par-ci par-là malgré la noirceur du liquide. Ce seraient des petits bouts de vessie de poisson selon certains ou simplement des résidus de levure selon d'autres. En tout cas, bientôt le doute ne sera plus possible. Guinness va arrêter d'utiliser les viscères de poisson-chat notamment pour filtrer sa bière. Alors ça n'est pas très ragoûtant comme ça, mais c'est un processus naturel et il est utilisé par de nombreuses marques de bière. En tout cas, depuis 1759, la brasserie transforme les entrailles de poisson en un liquide blanc et visqueux qui est ensuite versé dans les tonneaux. Résultat, les résidus de levure vont naturellement s'installer au fond de la cuve. La pâte est ensuite séparée de la bière. Mais cela signifie en effet qu'il y a des toutes petites traces de poisson dans la bière. Un problème pour certains végétariens et les végétaliens ou toute personne qui ne se réjouit pas à l'idée de boire du poisson à l'apéro. C'est une révolution chez Guinness, mais elle est réfléchie. Le Royaume-Uni est son plus grand marché et elle se prive de 6 millions de clients aux exigences culinaires rien que chez son voisin britannique. D'ici fin 2016, plus de poissons donc. La brasserie aura installé un nouveau système de filtrage, même si pour l'instant elle garde son secret au chaud. On ne sait pas encore ce qui remplacera les entrailles de poissons. La compagnie peut se permettre d'investir dans un filtre dernier cri, comme elle dit. Les amateurs de bière filtrée au poisson sont encore nombreux. Chaque jour, 4,4 millions de pintes sont bues de par le monde et la brasserie a un contrat de location qui court sur 9000 ans, alors même s'il ne lui reste plus que 8700 ans, on peut quand même parler d'investissement de long terme.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À demain.
Vous écoutez RFI et vous souhaitez nouer des liens plus forts avec votre radio, rejoignez la